Take Care.
Take Care.
Le podcast qui prend soin de moi au boulot.
Bonjour à tous et bienvenue sur CDI Podcast pour un nouvel épisode autour du soin de soi. Je suis toujours accompagnée de Gilles Payet, coach sophrologue et auteur du livre 365 jours pour prendre soin de moi, paru chez ESF Sciences Humaines. Dans ce nouvel épisode, nous allons parler d'un sujet qui n'est pas très gai, le burn-out. Partout dans les médias ces dernières années, le burn-out semble depuis quelque temps oublié. Pourtant, il n'en est pas moins présent et la période de crise sanitaire que nous avons traversée n'a fait qu'accélérer le processus. Alors Gilles, bonjour.
Bonjour Marie.
Comment on repère un burn-out, un vrai burn-out? Quels sont les signaux?
Alors, les signaux sont multiples. Il y a des signaux comportementaux, il y a des signaux physiques, il y a des signaux psychiques. Le burn-out, d'abord, la traduction de ce mot anglais, ça veut dire « to burn out ». En anglais, ça veut dire « se griller ». Donc, ça veut dire se griller plutôt de l'intérieur, au niveau corporel, au niveau psychique. Ça se traduit très concrètement. Alors, ça dépend de votre état d'avancement du burn-out. Il y a le début du burn-out. Il y a le pic, l'œil du cyclone, j'allais dire, du burn-out. Dans l'œil du cyclone, votre corps est à l'arrêt, vous êtes triste, vous êtes dans l'incapacité de faire quoi que ce soit, c'est-à-dire il n'y a même plus de volonté.
Ouais, on a dans quelques témoignages ces personnes qui expliquent que leurs jambes ne les portent plus.
Absolument. La pensée, vous n'avez plus envie de rien, vous êtes dans un état, un état proche de la dépression, c'est-à-dire avec des idées plutôt très tristes, très négatives, aucune envie de faire quoi que ce soit, évidemment aucune envie de travailler, mais aucune envie aussi, ça a un impact aussi sur la vie sociale, personnelle, d'échanger, repli sur soi, impact sur le sommeil, difficulté à trouver le sommeil. Souvent amaigrissement, bien sûr, parce que ça touche aussi l'alimentation. Ce manque d'envie touche aussi le manque d'envie de s'alimenter. Donc, dans l'œil du cyclone d'un burn-out, c'est très, très, très compliqué. Et physiquement, c'est même dangereux, je dirais, puisque cet épuisement, ce syndrome d'épuisement professionnel, c'est, constate, un épuisement à la fois psychique et physique. Donc il faut se faire accompagner, évidemment, votre médecin généraliste, le médecin du travail qui, lui, a cette position de rencontrer beaucoup de cas chaque année de collaborateurs en situation de burn-out sera évidemment de bons conseils. Donc en complément du médecin généraliste, je pense qu'il est bien de rencontrer aussi le médecin du travail qui donnera en complément des indications, peut-être des coordonnées d'associations aussi de soutien et qui donnera en complément de ce médecin généraliste les bons conseils, bien sûr. Souvent il y a un accompagnement psychologique également
mais qui est proposé par les entreprises.
Absolument, oui, tout à fait. Donc c'est quelque chose de compliqué et qui touche d'ailleurs aussi les étudiants. On a vu de plus en plus de cas. J'en ai connu personnellement, puisque je travaille avec une école supérieure de commerce et j'ai dans les promotions de M1, de M2, dont je m'occupe, eu des cas avérés de burn-out pour trop grand à la fois investissement, surinvestissement au travail, avec un manque de sens. Et la pandémie, les cours en visioconférence, comme les réunions en visioconférence, je dirais à outrance dans l'univers d'entreprise, créent une déshumanisation de fait. C'est pas une vision, comment dirais-je, trop sensible de ma part. C'est-à-dire le fait de plus être face à face, le fait de plus pouvoir échanger de regard.
Oui, de pas plus d'échange direct.
Bien sûr, parfois avec. Vous avez les personnes dont vous n'entendez que la voix, vous ne voyez plus les visages puisqu'il n'y a pas de connexion de la webcam. C'est cette déshumanisation qui provoque ce questionnement sur le sens de ce que l'on fait, sur l'intérêt de ce que l'on fait. Et quand le questionnement est trop profond, on est à l'arrêt. On est dans l'incapacité d'avancer, tout simplement. Donc, syndrome d'épuisement professionnel. Le traitement, entre guillemets, de cela, c'est de s'arrêter, bien sûr. De toute façon, on est dans l'incapacité d'avancer plus. C'est d'être accompagné, encore une fois. Alors, il y a un accompagnement, médicamenteux pour l'urgence, c'est-à-dire redormir, aller mieux psychiquement. Donc ça, c'est la partie médicale que gèrent les médecins. Et puis, sous l'angle psychique, l'un des points communs des situations de burn-out, c'est que vous vous oubliez vous-même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est insidieux, c'est-à-dire que c'est des mois, des années de surinvestissement, par exemple, où sans vous en apercevoir, vous n'êtes plus chez vous. vous rentrez tard, vous surinvestissez le temps professionnel sur le temps personnel, vous ne faites plus de sport. Si par exemple vous aviez comme passion soit la course à pied, soit je sais pas le tennis, le yoga, vous vous apercevez que finalement depuis 6 mois, depuis 9 mois, il n'y a plus une seule heure de yoga ou de course à pied.
Ou du moins ces temps sont très très réduits.
Ou alors les temps sont très très réduits, ou ils ont disparu de votre emploi du temps parce que justement vous êtes surchargé, parce que justement vous n'avez plus de temps pour ça. Et c'est l'un des points communs des situations de burn-out qui sont communs également aux situations personnelles, c'est-à-dire vous pouvez être aussi en situation de burn-out personnel parce que ça fait 2 ans que vous êtes aidant d'un parent malade, parce que vous êtes parent d'enfants qu'il faut suivre et vous donnez tout votre temps, toute votre énergie en plus de votre boulot si vous travaillez en plus d'être parent, pour vos enfants. Et le temps pour vous, il disparaît.
Il n'existe plus.
Il n'existe plus. Alors si en plus vous avez des situations difficiles à gérer, comme des enfants malades, des enfants, je ne sais pas, en échec scolaire, des enfants, et que vous, ça vous mine, vous ne pensez qu'à ça. Alors entre le boulot qui vous surcharge, qui vient trop dans votre vie tout court, vos enfants ou vos parents qu'il faut suivre, ou un ami ou un conjoint qui ne va pas bien, soit physiquement, soit psychiquement, bah, le burn-out personnel existe également. Le burn-out des étudiants existe. Il n'existe pas non plus que pour les études supérieures. Je suis sophrologue et je dédie ma pratique au suivi d'enfants, primaire, collège, lycée et post-baccalauréat, bien sûr. Il y a des enfants en classe de 3e qui sont en situation de burn-out. Voilà. Donc, alors, c'est un mot... valise entre guillemets, alors qui n'est pas si récent, hein, le mot burn-out existe depuis plusieurs dizaines d'années.
On en a beaucoup parlé dans les médias pendant un effet de mode entre guillemets qui était assez insupportable, je pense aussi pour les gens qui étaient déjà passés par là, ou
oui,
tout
absolument.
Ça, comme s'il y avait une découverte.
Oui, tout à fait. Personnellement, je dois avouer que j'ai vécu un burn-out assez violent mais court, l'avantage c'est qu'il était court, sur investissement, sur un dossier. Voilà, jour, nuit, pendant 3 semaines sur un dossier d'appel d'offres, une compétition d'agence à l'époque. Et puis le dossier qui n'est pas gagnant au final. C'est-à-dire, et donc grand vide, puisque 100% de ma vie était dédiée à ça. J'y pensais, je me réveille la nuit sur le sujet, etc. Mise entre parenthèses de ma vie familiale, je suis papa de 3 enfants plutôt impliqués, donc ça je l'avais mis de côté, donc ça ne m'allait pas finalement. Je me suis aperçu finalement que depuis plusieurs mois, je ne pratiquais plus mon sport préféré. Et c'est mon médecin généraliste justement qui m'a tiré d'affaire. D'abord, il m'a donné des somnifères parce que je ne dormais plus. Il m'a donné des antidépresseurs parce que, en gros, c'est la double panoplie quasiment tous les médecins, somnifères et antidépresseurs.
C'est pour stopper le processus, ça. Enfin,
oui.
pour recréer un équilibre.
Voilà, j'ai pas voulu, moi, de traitement médicamenteux, donc j'ai pas pris. Et je suis revenu vers elle en disant, enfin, ben, ce médecin généraliste, médecin de famille, en disant, écoutez, docteur, moi, je veux pas ça. J'ai pas envie de ça. Je me sens pas déprimé, c'est pas le sujet. J'ai pris un demi-cachet, là, pour redormir, mais j'ai tellement redormi que j'ai trouvé ça trop violent, donc je veux surtout pas de ça. Et on a entamé une discussion sur le fond. C'est-à-dire, on en revient toujours à la même chose. Et elle m'a posé la question de savoir quelle était mon activité favorite personnelle, ce qui me mettait en joie, etc. Et à l'époque, c'était le golf, parce que j'aimais bien ces espaces de nature, etc., partir la journée avec des copains, etc. Bon, ok. Et elle me pose la question, mais depuis combien de temps n'avez-vous pas mis au programme de votre vie cette activité que vous aimez bien, qui est le golf ? Je réfléchis, ça faisait à peu près 10 mois. Et elle me dit, je vous cite ces mots, Gilles, vous déconnez. J'ai adoré sa phrase. Alors
c'est un peu interloquant quand même.
Un peu interloquant.
Oui.
Gilles, vous déconnez. Il faut remettre, pour vous c'est le golf, pour d'autres ça serait le yoga, pour d'autres ça serait, je sais pas, une activité, le jardinage, pour d'autres, peu importe. Pour d'autres ça serait d'aller se faire coiffer, d'aller se faire chouchouter chez la manucure, etc. Vous c'est le golf, donc mettez dans votre emploi du temps, mais de façon autoritaire, considérez que c'est comme une occupation professionnelle, c'est-à-dire pour être bon professionnel, pour continuer à être bon papa, bon conjoint, bon tout court, et puis être équilibré, il faut que vous remettiez dans votre emploi du temps de plaisir, ce qui vous anime vous.
Et ce qui s'était peut-être perdu
complètement.
Au fil des années.
Ah ben, ça avait disparu de mon emploi du temps. Et elle m'a donné le conseil d'ailleurs, vis-à-vis de mon équipe, vis-à-vis de mes clients, que quand j'étais sur cette occupation-là, de dire que j'étais injoignable. Voilà. Et elle m'a même d'autorité, mais j'ai pris l'autorité comme une solution, elle m'a même suggéré sur la gestion de mon portable, parce que le portable, c'est quelque chose d'assez intrusif, de le laisser dans la voiture. C'est-à-dire, quand je vais jouer, quand je fais cette partie, qui dure à peu près 4 heures et demie, pendant ce temps-là, je suis injoignable de fait, parce que, de toute façon, le portable n'est pas en mode vibreur, il n'est pas dans mon sac, il est dans la voiture. Donc, même si vous m'appelez, vous pouvez me laisser 50 messages, la Terre peut s'écrouler, je ne le saurai pas.
Et c'est pas grave.
Et quelque part, c'est pas grave, ça dure que 4 heures. Voilà, donc c'est ça le truc. Donc quand vous êtes sur vos occupations personnelles, rendez-vous injoignable. Et donc ce questionnement de fond, pourquoi est-ce que je suis dans cette situation-là? Quels sont les éléments qui me permettraient de regagner en estime de moi, en plaisir, des occupations purement égoïstes, c'est-à-dire quels sont mes besoins à moi? J'ai le besoin de me dépenser physiquement, j'ai le besoin de... Posez-vous la question, quels sont vos besoins? Et remettez de la réponse à vos besoins dans votre emploi du temps. Voilà, c'est l'un des conseils que j'ai trouvé les plus puissants pour progressivement remettre du plaisir, du temps pour soi dans sa vie. Parce qu'encore une fois, l'un des points communs des situations de burn-out, c'est que vous donnez du temps à tous les autres, à vos parents que vous aidez, à vos enfants que vous aidez, à vos collègues, à vos clients, etc. Et quand vous dédiez tout le temps pour les autres, ben, vous n'existez plus quelque part. Vous n'êtes dédié qu'aux autres et plus à vous-même. Et il faut rééquilibrer les choses. Voilà, il faut, le message, c'est de rééquilibrer les choses. Alors, c'est toujours pareil. De rééquilibrer les choses, ben, s'il faut du courage, il faut de la volonté. Dans les situations de burn-out, c'est des situations très difficiles où on n'est pas maître de tout. Donc, le fait de se faire accompagner, je pense que c'est nécessaire.
Il ne faut vraiment pas hésiter.
Bien sûr. L'accompagnement psychologique, je pense, est vraiment indispensable.
Et aussi pour faire en sorte que ça ne se reproduise pas.
Complètement. Quoi. Parce que le deuxième questionnement important, c'est de comprendre quel a été l'environnement de ce burn-out. Qu'est-ce qui a provoqué ce burn-out? Parce qu'on s'aperçoit aussi qu'un certain nombre de personnes qui vivent un burn-out peuvent le revivre 3 ans, 5 ans, 10 ans après.
C'est ce qu'on observe. Hein,
c'est ce qu'on observe. Alors, pas pour tout le monde, bien sûr. Donc, l'un des enjeux, c'est de comprendre ce qui a généré le burn-out. Parce que parfois, on peut être en partie responsable de ce burn-out. Je reprends l'exemple de la surcharge professionnelle, qui est une cause commune, j'allais dire, ou en tout cas très souvent observée. On peut être en surcharge parce que soi-même, on ne pose pas les limites. Donc, le fait de dire, voilà, c'est la surcharge qui a généré le burn-out. Donc ça, c'est cet environnement défavorable. C'est de comprendre pourquoi vous êtes en surcharge. Quelle est votre part de responsabilité dans cette surcharge? Et quelle est la part des autres, et d'essayer de recomposer un environnement professionnel qui évite de reproduire cela. Et un comportement personnel
et
qui évite de
la main
vous remettre,
quelque part aussi.
Reprendre la main.
Tout à fait.
Si la situation de burn-out est liée, par exemple, à la fréquentation de certaines personnalités nocives, eh bien, il faut comprendre ça. Donc, ça veut dire que le travail psychologique avec un coach ou avec une psychologue ou avec un psychiatre, vous permettra d'identifier ça. Si la situation de burn-out est générée par cette surcharge, c'est pareil, il faut comprendre d'où vient cette surcharge. Si la situation de burn-out est liée au fait que vous ne savez pas dire non, et donc vous êtes surchargé à nouveau, il faut passer par cette compréhension-là, peut-être passer par une formation sur apprendre à dire non plus souvent, plus facilement, pour vous protéger vous-même, ou apprendre dans votre management à plus déléguer et ne pas prendre tout pour vous. Et en déléguant, bah, c'est génial, vous économisez du temps, donc de la surcharge, et vous responsabilisez les gens et vous les faites progresser. Donc c'est vraiment la décision gagnante-gagnante. Mais c'est pareil, si votre personnalité est dans le contrôle, la délégation sera difficile. Donc pareil, il faut vous faire aider, soit sous la forme d'une formation, soit sous la forme d'une prise de conscience qu'il faut apprendre à déléguer. Donc ça peut être votre N+1 ou un responsable RH qui attire votre attention sur le fait qu'il faudrait que l'objectif de l'année prochaine, ça serait de plus déléguer. Ça pourrait être une sorte d'objectif professionnel. Ça l'est les managers bienveillants qui identifient ça en font un objectif principal pour leurs collaborateurs.
Voilà. Mais ça ne s'applique pas à eux-mêmes.
Alors, je voulais signaler également, puisque en préparant cet échange, j'ai identifié deux tests qui existent en ligne, qui sont gratuits. C'est le test de Maslach, alors ça s'écrit M-A-S-L-A-C-H, que j'ai fait pour savoir si j'étais en situation de burn-out, Marie. Bon, je ne le suis pas,
là,
en tout cas, modérément. En tout cas, aujourd'hui, tout va bien. Je le referai demain pour savoir s'il y a une évolution.
On a du boulot. Hein,
donc,
même,
test de Maslach, vous saisissez sur votre moteur de recherche préféré M-A-S-L-A-C-H et vous vous ferez. Il y a une vingtaine de questions, ou 20 ou 25. En 5 minutes, c'est fait. Vous avez un diagnostic qui est proposé. Et puis, il y a le questionnaire CBI également, qui est à nouveau une série de questions.
Je ne connaissais pas. Maslow,
alors,
oui,
mais... CBI, mm-hmm. Vous saisissez, pareil, moteur de recherche, questionnaire CBI. Pareil, c'est des questions en ligne qui vous permettent de, bah, d'avoir... Alors, ça ne vaut pas avis médical, bien sûr, hein, il ne faut pas non plus... mais ça vous donne des indications, et les questionnements qui vous sont proposés, en fait, vous interrogent finalement sur la situation et vont vous permettre d'identifier justement sur... d'identifier les leviers, en fait, que vous pourriez actionner pour aller mieux. Voilà. Donc voilà pour l'essentiel. Je dirais aussi que le, vous savez, il y a un outil qui est génial, un outil de coaching pour justement identifier les environnements favorables. Mm-hmm. C'est un outil dont on a parlé à plusieurs reprises et dans l'une des chroniques Take Care. C'est l'outil de l'ikigai. L'ikigai vous assure quasiment de ne jamais être en situation de burn-out. Alors je rappelle, ou je vous informe sur ce que c'est que l'ikigai. Donc c'est un outil conceptuel constitué de 4 cercles. Donc vous imaginez un cercle en haut, un cercle à droite, un cercle en bas, un cercle à gauche, qui sont superposés en leur centre. Et l'ikigai, c'est la superposition de ces 4 cercles. Le premier cercle, c'est l'environnement, de tout ce qui vous met en joie, de tout ce que vous aimez faire. Vous aimez jardiner, vous aimez former, vous aimez écrire, vous aimez... Donc faites la liste de tout ce que vous aimez faire dans votre vie, mais même à la fois personnel et professionnel. Le deuxième cercle, c'est tout ce pourquoi vous êtes compétent, talentueux. C'est le domaine des compétences, des talents, des savoir-faire, des aptitudes. Très concrètement, qu'est-ce que vous savez très bien faire? Et quels sont vos talents, c'est-à-dire les aptitudes ou les compétences rares? C'est-à-dire ce que vous savez très bien faire et qui est moins partagé par tout le monde. Vous pourriez dire « je sais marcher », mais tout le monde sait marcher. Bon, ok, c'est une compétence que vous avez, enfin tout le monde, la plupart des personnes qui ne sont pas en situation de handicap savent marcher. Ok, mais ça, c'est pas une compétence rare. Si votre compétence, c'est de savoir écrire, rédiger des articles sur le web, c'est déjà un peu plus spécifique. Et si vous avez un vrai talent pour ça, notez-le. Le troisième cercle, c'est tout ce qui vous rétribue, c'est-à-dire ce temps passé, la rétribution en termes d'argent, bien sûr. Est-ce que vous estimez que ce que vous faites rapporte suffisamment d'argent, votre salaire ou la rémunération si vous êtes consultant ou chef d'entreprise en termes de facturation? Mais ça peut être la rétribution comme le plaisir de faire progresser son équipe, par exemple. Si vous êtes animé par ça, la rétribution ne sera pas financière. Est-ce que vous estimez que l'équipe que vous avez, si vous êtes manager, pour le poste que vous occupez, est-ce que ce goût que vous avez, la rétribution de voir votre équipe progresser, est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez constater chaque jour, chaque semaine ou chaque mois? Et puis le quatrième cercle, c'est de placer des temps de vie sur ce qui apporte à la société, ce qui favorise sa progression, soit d'un point de vue scientifique, soit d'un point de vue comportemental, soit d'apporter plus d'informations qui font du bien aux autres, soit simplement dans votre pratique de faire progresser les gens. Voilà. Ces 4 cercles, ce que vous aimez faire, ce pourquoi vous êtes compétent, ce qui vous rétribue et ce qui apporte une valeur ajoutée à la société et au monde en général, l'ikigai, bah, c'est la superposition de ces 4 dynamiques de vie-là. Et quand vous êtes au centre de ces 4 cercles, vous êtes donc au centre de l'ikigai, rien de grave peut vous arriver. Mmh. Parce que vous mettez en avant et vous avez des temps de vie que vous aimez, pour lesquels vous êtes compétent, qui vous rétribuent suffisamment et en plus qui font progresser la société.
Donc voilà. C'est un équilibre, vous êtes dans une situation d'équilibre.
Absolument. Mmh. Donc si ça vous intéresse, pour les personnes qui nous écoutent, saisissez pareil sur moteur de recherche Ikigai, I-K-I-G-A-I, et faites-en un outil, j'allais dire, de questionnement, un outil introspectif pour aller choisir vos environnements favorables. Et si l'environnement, notamment professionnel, puisqu'il s'agit du thème de cette émission, n'est pas un environnement favorable, soit vous recomposez l'univers, c'est-à-dire en changeant de poste dans la structure, en changeant aussi votre posture, apprendre à dire non un peu plus souvent, en déléguant, etc. Ça, c'est les leviers. Et puis, le levier tout bête aussi, c'est de changer d'entreprise. Tout simplement. Mmh. Mais en ayant fait le boulot de comprendre ce qui n'allait pas. Quelle
toujours
était votre
pareil,
ambiance.
Les questions de fond. Par ça.
Parce que sinon, vous allez changer et vous risquez de vous retrouver avec un nouveau job dans une nouvelle structure. Mais si vous n'avez pas fait le... Si vous n'avez pas la compréhension fine de ce qui n'allait pas...
Les mêmes mécanismes peuvent se mettre en
place. Peuvent se mettre en place, absolument. Donc le travail de fond d'abord toujours.
Merci beaucoup, Gilles.
Merci, Marie.
Take care.
Take care.
Le podcast qui prend soin de moi au boulot. CDI Podcast.